Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Jusqu'à 19h, on va décortiquer l'actualité de ce lundi. Vos grandes voix sont là autour de vous. Nathalie Lévièvre, Roger, chef du service société d'Europe 1. Jean-Rémy Baudeau, journaliste politique. Et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonsoir à vous, les grandes voix.
Bonsoir, mes amis.
Bonsoir à tous.
Emmanuel Dutheil, Roger, Jean-Rémy Baudeau. Alors, Emmanuel Dutheil, j'ai envie de commencer avec vous ce soir parce que l'information.
Non, mais vous plaisantez comme si vous étiez maltraité. Non, mais parce que ça concerne évidemment beaucoup d'entreprises et pas seulement hein, le chômage partiel qui a été là, mis en place pendant ces deux mois de confinement. Eh bien, ça y est, la prise en charge par l'État, elle est abaissée, comme c'était promis à compter du 1er juin.
Oui, on attendait depuis plusieurs jours de savoir comment le chômage partiel allait être financé pour les mois à venir. Alors, déjà, le point le plus important pour ceux qui sont en ce moment au chômage partiel, rien ne va changer pour eux à compter du 1er juin, c'est-à-dire qu'ils auront toujours 84% de leur salaire net à la fin du mois. Qu'est-ce qui change ? C'est la prise en charge par l'État. C'est-à-dire que jusque-là, on peut le dire, les salaires étaient nationalisés en France pour environ 9 millions de personnes, puisque l'État payait 100% de ces 84% de salaire net. Qu'est-ce qui va se passer donc à partir du 1er juin ? L'État abaisse sa quote-part et les entreprises auront donc 15% à leur charge. Alors sur le papier, on peut se dire, ils y vont très tranquillement, c'est vrai. Mais ça grince des dents, notamment du côté de la CPME qui représente les petites entreprises qui disent, bah voilà, nous, ça va quand même être compliqué pour nous, puisque le but de ce dispositif totalement inédit, dans son ampleur, dans son fonctionnement, dans le montant qui a pu être accordé, c'est quoi ? C'est de permettre aux entreprises de garder les compétences. Puis disons-le très honnêtement, de ne pas licencier. Si les entreprises ne licencient pas en ce moment, c'est uniquement parce qu'il y a cette mesure de chômage partiel. Donc la grosse.
Alors tout le monde n'est pas concerné quand même.
Tout le monde n'est pas concerné. Non, c'est-à-dire que tous ceux qui sont... Vous avez raison, vous avez totalement raison, Nathalie, de me le faire préciser. C'est-à-dire que tous ceux qui sont encore fermés pour raisons administratives, eux vont bien évidemment pouvoir continuer à toucher le chômage partiel, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 100% par l'État.
Tourisme, culture,
parc d'attractions. Enfin bon, tous ceux qui sont piscines.
L'État qui reste effectivement présent.
Quand c'est fermé de façon obligatoire à cause de l'État... c'est donc encore payé à 100% par l'État.
Voilà. Alors ça, c'était pour le point économique très précis d'Emmanuel Dutheil. Sur l'angle politique des choses avec vous, Jean-Rémy Baudeau, bon, on le savait, ça devait arriver de toute façon, ça ne pouvait pas durer éternellement.
Non, mais ce sera un virage politique assez délicat à négocier, car effectivement, tout le monde s'y attendait. On le dit depuis des semaines, notamment Bruno Le Maire, l'État français est peut-être le premier employeur payeur d'Europe, peut-être même du monde, avec, Emmanuel le disait, 9 millions de personnes qui sont payées par l'État. Mais politiquement, eh bien, il va falloir quand même, comme on dit, eh bien, arrêter, couper le robinet au bout d'un moment. Et ça, évidemment, les gens ont trouvé très normal que l'État vienne au secours de l'économie au début du confinement. Comment réagiront ceux dont les entreprises vont fermer ? Et je peux vous dire qu'au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif au sens large, depuis plusieurs semaines, on s'inquiète beaucoup sur l'après. Car en gros, on a considéré au sein de l'État que le confinement, il avait été globalement réussi. D'un point de vue sanitaire, ça a l'air de, pour l'instant, restons prudents, mais globalement bien se passer. La vague économique, vague de la crise économique qui est derrière, risque d'être compliquée.
Ça veut dire qu'il redoute des licenciements.
Ricochés jusque dans les prochains mois. On parle de peut-être jusqu'à 1 million de chômeurs en plus. C'est des chiffres qui donnent absolument le vertige. Et ça, pour l'État, on aura beau lui dire, vous nous avez aidés dans un moment, mais vous avez arrêté. Comme disait un ministre à midi, dans 6 mois, plus personne ne nous dira merci d'avoir fait le chômage partiel.
Alors, on va poursuivre avec une autre grosse actualité sur laquelle vous allez tous pouvoir intervenir. Ève Roger, vous y étiez. Enfin, oui, il me semble. Bonsoir à vous, Ève, en visio. Le Ségur de la santé, ça y est, qui s'était lancé pour 7 semaines, si mes comptes sont bons.
Voilà, c'est ça. Il faut faire attention. C'est-à-dire que c'était juste, on a ouvert un rideau aujourd'hui et puis qu'en fait, le dur commence vraiment que demain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup d'attentes quand même sur cette ouverture de rideau qui a été un peu déçue parce que finalement, on a beaucoup parlé de l'augmentation du salaire des personnels soignants, en particulier les infirmières. Et puis en réalité, le Premier ministre n'a donné aucun chiffre, aucune enveloppe, aucun... Alors que Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'était beaucoup plus engagé avant puisqu'il avait dit, on va revenir au niveau moyen moyen du salaire des infirmiers de l'OCDE, ce qui fait quand même une augmentation mensuelle autour de 400 euros.
Ouais. Voilà, en même temps, s'il donne tout maintenant, pourquoi partir sur cette semaine de discussion?
C'est vrai, mais il l'a dit la semaine dernière, vous voyez. Donc il y a quand même un effet un peu déceptif, même si toutes ces paroles, c'était que des éloges, et là, vous l'avez entendu, c'était des remerciements, c'était de la reconnaissance, c'était on va aller plus vite, plus fort. Et c'est vrai que ce week-end, je me suis replongée dans ma santé 2022, qui était le plan de septembre 2018. Et c'est vrai que tout est dedans. Tout est dedans.
On a envie d'avoir les week-ends d'Evrolet.
Si je vous dis le SAS, le système d'accès aux soins, vous vous souvenez, en mois de juillet, on devait pouvoir appeler un numéro.
Et dire, oui, mais ça aurait mis 10 ans à faire ses effets avec la fin du numerus clausus, avec la reprise de la dette. Ça met 10 ans à donner un effet.
Alors c'est la seule différence, c'est que là, normalement, il devrait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que c'est comme ça qu'on va plus vite et plus fort.
Bon, l'heure de vérité, en tout cas, on l'attend, mais on va encore l'attendre. Voilà, on va l'attendre jusqu'à début juillet. On se retrouve, Emmanuel Duteil, Jérémy Baudeau et Avroger, dans une toute petite seconde. On y reviendra avec vous, bien sûr, sur ce Ségur qui s'était lancé.
Europe 1.
Le Ségur de la santé, on continue d'en parler ce soir parce qu'il s'était lancé aujourd'hui même. 300 personnes au départ pour prendre la parole. Enfin, 10 seulement ont pris la parole. Mais en tout cas, il y en a pour cette semaine de discussion. Et sur le plan politique et économique, c'est aussi intéressant d'avoir votre regard à vous deux, Emmanuel Duteil et Jean-Rémy Baudeau, parce que le gouvernement est attendu au tournant, l'exécutif, sur cette question de la santé. Il ne faudra pas se louper, hein.
Il ne faut pas se louper parce que ce Ségur, c'est un peu le premier test grandeur nature de l'après-Covid, du monde d'après, de savoir si le gouvernement entend ou pas les revendications et en gros met le paquet là où il faut. C'est intéressant, tout à l'heure Eve disait qu'il n'y avait aucun chiffre. Oui, mais Edouard Philippe dit que la hausse sera significative, il promet des changements dans le quotidien à l'hôpital dans les tout prochains mois. Ça, si à la mi-juillet, eh bien, il n'y a pas des chiffres en face, on parle peut-être de 300 euros. Martin Hirsch ce matin demande 15% d'augmentation pour le personnel soignant. Bah, ce sera totalement raté et ça voudra dire que le gouvernement n'a pas su mettre les moyens. J'en parlais ce week-end avec l'entourage, comme on dit, d'Olivier Véran, qui me disait Véran, il sait très bien que si on rajoute 50 balles, ça ne va pas le faire. Et donc le gouvernement a bien l'idée en tête qu'il va falloir quand même mettre le paquet et que ça se voit sur les feuilles de paye. Parce que, comme on le disait tout à l'heure avec le plan 2022, c'est effectivement, beaucoup de gens ont dit que ça allait dans le bon sens, mais ça mettra 10 ans. Là, il faut que, peut-être au 1er janvier, je ne sais pas, mais il faut que dans les prochains mois, il y ait plus d'argent sur
les fiches de paye. C'est pour ça qu'il répète à l'envi le terme significatif, Emmanuel Duteil.
Oui, alors moi, j'ai été un peu déçu, pour être très honnête. J'ai écouté le Premier ministre et je trouve que, malgré tout, par exemple, sur la hausse de salaire, ce qu'on attend le plus, il n'envoie pas un signal extrêmement clair. Et effectivement, c'était facile d'ajouter une phrase en disant « ce ne sera pas 50 euros, je ne peux pas vous donner aujourd'hui le montant, ça va être la fin des discussions ». Mais on était sur des thématiques très compliquées, d'investissement à l'hôpital, sur des choses…
Mais il y avait des professionnels en face de lui.
C'est compliqué de dire qui aussi va être concerné, parce qu'on parle beaucoup de vous.
Sauf qu'il y avait beau avoir des professionnels en face, les plus intéressés, c'est quand même ceux qui étaient en première ligne pendant toute cette crise, qui sont épuisés physiquement, moralement, qui ont tout donné. Et cette semaine, c'est quasiment autant que la crise qu'on vient de vivre. Donc attendre cette semaine pour savoir de combien vous allez être augmenté, c'est quand même, je trouve, un poil compliqué. Et que le message global était, alors certes, des remerciements, des machins, bon, ça a duré longtemps, mais je trouve que d'un point de vue même purement économique, on dit toujours que la confiance est importante. Ouais. Et ils auraient pu avoir un poil plus de confiance.
Trop introductif.
Il faut quand même se rappeler que ce n'est pas qu'une histoire de rémunération. Il faut, là, il est censé remettre tout le système à plat et que ça va prendre du temps.
Bien sûr, sauf qu'il faut des signes.
Voilà. D'ailleurs, sur les 35 heures, il ne fait pas que des heureux en disant qu'on peut ouvrir un là-dessus aussi.
Non, il n'y a pas de tabou.
Exactement. Alors, on va continuer avec vous, Eve Roger, parce qu'il s'en passe aujourd'hui. On a appris il y a quelques instants.
C'est le feuilleton.
Mais bien sûr, c'est le feuilleton. Que l'OMS suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine du professeur Raoult après ces fameuses études à Lancet. Nouvelle étape et nouveau revers.
Voilà, ça c'est le feuilleton d'aujourd'hui. Ouais. Alors c'est vrai qu'on y a passé tout le week-end aussi.
Oui.
Donc là, on sent quand même la vapeur changer un peu de sens. C'est-à-dire que c'est vrai que cette étude de The Lancet disait pour la première fois, non seulement ça ne sert à rien, mais ça on l'avait déjà dit plusieurs fois, mais qu'en plus ça peut aggraver la maladie, et ça c'est la première fois qu'on a l'aggravation. Ouais. Avec, on avait déjà les effets secondaires, les risques cardiaques, etc. Mais ça c'est vrai que c'est, et puis sur une étude qui a été menée donc sur 15 000 personnes à travers le monde, et c'est vrai que qui est une étude qui est validée par cette revue The Lancet, et c'est étonnant. Ouais. Alors on a eu la réponse de Didier Raoult aujourd'hui, on l'a entendu. Il commence à mettre en question la dérive des journaux de recherche médicale.
Tout est bon avec Didier Raoult.
Voilà. C'est une rhétorique de dire, regardez maintenant, les chercheurs, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi.
Vous savez ce qu'ils pensent du consensus quand même.
Ouais. Bah oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que la rhétorique est assez intéressante à voir aussi. Et finalement, il dit, moi, je crois ce que je vois. Ce que j'ai vu, j'ai vu mes 3600 patients, et je les ai vus s'améliorer. Alors que les chercheurs, ils font des trucs, des big data, donc genre, ils font des choses un peu nébuleuses dans des ordinateurs, ils ne voient pas les patients. Et là, moi, la différence, c'est ce que je vois. Et en fait, ça nous ramène à la définition de la science. Est-ce que la science, c'est ce qu'on voit? Ou est-ce que la science, c'est ce qu'on observe à partir de
résultats.
Et puis d'un protocole qui est scientifique. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que le vrai protocole, c'est effectivement des patients qui ne savent pas s'ils ont un placebo ou le médicament, et c'est seulement après qu'on voit à l'extérieur d'eux, mais pas en les regardant. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant.
On n'a pas fini, de toute façon, d'en apprendre autour de Didier Raoult.
De toute façon, je vous l'avais dit, je crois, dès le début, je crois qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire.
Ouais, c'est ça. Du coup, il y a peut-être de l'embarras du côté de l'Élysée, ou pas, Jean-Rémy Baudot, parce qu'on se souvient quand même d'Emmanuel Macron sur place avec Didier Raoult.
Oui, mais il y a une lecture de cette visite d'Emmanuel Macron à Didier Raoult, qui est aussi une manière de, comme on dit en politique, de traiter quelqu'un. Oui. C'est-à-dire de ne pas le laisser dans un coin pour qu'il se sente pris en compte et d'éviter que ça dérape trop dans le sens. J'allais rebondir sur ce que disait Eve il y a un instant. Est-ce que ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, la définition du populisme? C'est-à-dire remettre en cause systématiquement tout ce que
le système,
l'establishment propose, en se mettant comme défenseur d'une certaine liberté qui est d'un bon sens. Didier Raoult, il joue un jeu qui est extrêmement délicat.
En tout cas, il est très habile en la matière. On verra le résultat, bien entendu. On se retrouve dans un petit instant. Emmanuel Duteil, vous allez nous parler du grand gagnant de cette crise. On a quelques idées quand même, tout de suite, avec les grandes
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h.
Et Emmanuel Duteil, on va se pencher sur... on a déjà un petit peu dit quels étaient les grands gagnants et les perdants de cette période de crise qu'on a connue. Là, si on fait les totaux... Le e-commerce a clairement tiré son épingle du jeu.
Oui, c'est même assez impressionnant, puisque au tout début de la crise, il y avait eu un sondage qui avait été fait par la FEVAT, qui est l'organisme qui regroupe tous les sites de e-commerce, et il disait que ça allait très bien pour les sites comme Cdiscount, comme Amazon. On avait besoin de commander plein de choses, Darty, ça marchait bien, parce qu'on a tous eu envie de faire du pain pendant le confinement. Enfin, non, mais mine de rien, vous rigolez, Anissa, mais ça a vachement marché. Les tondeuses pour les hommes, pour se tondre la barbe, etc., etc. Donc il y avait tous ces sites qui marchaient, mais à côté, vous aviez tous les sites d'habillement, tous les sites de décoration qui étaient vraiment un four total. Mais très très vite pendant la crise, même ces sites sont revenus à des bons niveaux, parce qu'à un moment, vous n'aviez que ça à faire chez vous, de vous dire, oh là, j'en peux plus de cette lampe, donc je me commande une lampe, j'en peux plus, mon fils ou ma fille a pris une taille, je vais quand même pas le laisser avec ses chaussures comme ça, donc bing,
moi j'achète une taille, voilà, c'est ce que vous allez dire.
C'est ça, donc j'achète une paire de chaussures. Donc le e-commerce...
sans parler du commerce alimentaire.
Ah oui, mais quand vous regardez la moyenne... ils ont aujourd'hui retrouvé leur niveau d'avant-crise. Et ils pensent qu'eux vont avoir un élément de boost impressionnant, notamment au travers de ce que vous citiez, Nathalie, le commerce alimentaire. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes ici ou si nos auditeurs qui sont à l'écoute sont des adeptes du drive, mais avant cette crise, il y avait 4-5 millions de personnes qui faisaient du drive. En un mois et demi, deux mois, on est passé à 7,5 millions de gens qui vont au drive. Et toutes les études le montrent que le plus compliqué, c'est la première fois. Parce que c'est tellement, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais une tannée de faire sa liste de courses parce qu'il faut rentrer 454 produits, puis vous avez oublié la promo de gauche, machin. Hop, là, une fois que c'est fait, vous y revenez et il y a un taux de reconduction impressionnant au niveau du drive. Le e-commerce dit, les gens ont peur d'aller dans les magasins. Et surtout, aujourd'hui, je vous mets au défi d'aller acheter un vélo chez Decathlon et d'attendre en banlieue parisienne trois quarts d'heure dehors. Je vous mets au défi d'aller acheter un petit haut pour votre fille ou votre fils qui a pris une taille dans un quelconque magasin que je ne citerai pas. Mais là, vous attendez aussi dehors avec longtemps. Donc les magasins, ce qui est très compliqué pour les magasins physiques, c'est qu'ils ne sont pas agréables en ce moment.
C'est ça.
Et une fois qu'on prend l'habitude du e-commerce, la praticité Ça se dit ça ?
Oui, ça se dit.
La praticité du e-commerce fait que...
Et ça veut dire que quand vous nous parlez des petits commerces, eux, ils vont devoir se réinventer typiquement avec des plateformes de e-commerce.
Non, mais là, si on a plein de commerçants qui nous écoutent, ils doivent rire quand on se dit se réinventer. Quoi,
ça coûte extrêmement cher pour un...
C'est sûr, mais est-ce que ça ne va pas être l'évolution logique ? Jean-Rémy Baudeau, la fin de la semaine sera... assez prolixe du côté du gouvernement. On devrait en savoir plus sur la fin du déconfinement.
Jeudi.
Les dates et pas seulement.
Sur la suite du déconfinement, il devrait y avoir jeudi matin un conseil de défense à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour trancher les dossiers les plus délicats. On pense évidemment à la question des restaurants. Vont-ils rouvrir ou pas dans les zones vertes ou pas, ou les zones rouges? À quelle date? La question des parcs et jardins, qui était une vraie question, notamment en région parisienne. On le note quand même depuis plusieurs jours que l'étau se desserre pour les Français avec des nouvelles conditions pour les voyages à 100 km. Il y a les annonces du vote le 28 juin, l'annonce qu'il sera possible de partir en vacances. Alors, je peux quand même vous dire que dans les ministères, on évite vraiment de crier victoire. Il y a encore des clusters, mais ils sont repérés. Et donc, d'ici jeudi, il devrait y avoir peut-être des chiffres plus précis sur la question de l'épidémie. Ce qui est certain, c'est qu'un ministre me disait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Si c'est un virus saisonnier, ça pourra peut-être revenir en octobre. Donc, il y a énormément de prudence de la part du gouvernement. Mais là, à partir de la fin de la semaine et dans les prochaines semaines, c'est vraiment l'épreuve de vérité, avec ce sentiment dont on parlait tout à l'heure, que le confinement a globalement été réussi, que les Français ont joué le jeu. Mais là, on a en fait, en gros, l'Élysée prévoit 4-5 étapes jusqu'à un retour à la vie vraiment normale. Et si tout se passe bien, avant l'été, courant août, quoi.
Bien sûr, il y a aussi les collèges et les lycées aussi.
Évidemment la question des collèges et des lycées.
Voilà, on observera tout ça, on sera très attentifs évidemment jeudi sur Europe 1 pour vous lister toutes les annonces et les expliciter. Ève Roger, les best-sellers qui reviennent en librairie, ça c'est aussi une bonne nouvelle avec un plan de soutien à la filière attendu cette semaine.
Vous êtes plutôt Joël Dicker ou Guillaume Musso ?
Ah, me chauffez pas parce que Joël Dicker sera demain soir sur Europe 1 à 19h20.
Non, c'est vraiment une semaine cruciale. Oui, c'est vrai, je le sais, à 19h20.
Voilà.
C'est une semaine cruciale pour les librairies, parce que c'est grâce aux best-sellers qu'elles vont pouvoir peut-être reprendre un peu du poil de la bête, sachant qu'elles ont perdu tout leur chiffre d'affaires pendant le confinement. Et chez les éditeurs, c'est 80% du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un secteur qui est extrêmement en difficulté. Donc alors, quand même, je vais vous faire rêver. On a Bernard Meunier la semaine dernière.
Ouais. On les voit sur
demain,
les
Guillaume Musso, La vie est un roman. Joël Dicker, vous en parlerez demain. On a aussi bientôt Patricia Cornwell, enfin des gens qui vendent beaucoup, beaucoup de livres, puisqu'il y a à peu près 400 000 ou 450 000 exemplaires tirés pour Musso et Dicker. Alors, ce qui est intéressant, c'est encore ce week-end, mais je ne sais pas s'il y a eu une conjonction. À la une du Monde, il y a eu un appel de 600 auteurs, éditeurs, qui en appelaient au président de la République pour dire sauver la filière du livre. Et je ne sais pas si vous avez vu, la veille, Franck Riester, le ministre de la Culture, avait promis un plan de soutien. Et en fait, il s'est rendu compte, je pense, les artistes ou les auteurs et les éditeurs, que faire la une du Monde, c'était pas mal parce que ça déclenchait une conférence du président de la République. Et donc, ils ont lancé la même opération. Et donc, on peut imaginer que d'ici la fin de la semaine, on aura un plan de soutien au livre. Jusqu'à présent, c'était le Centre National du Livre avait promis 5 millions d'euros. Là, ils en demandent plusieurs centaines de millions d'euros parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais le livre, c'est le seul secteur culturel qui est aujourd'hui accessible.
Bah oui. Mais ils ont une aide déjà spécifique.
Il y a une première aide.
Le fonds de solidarité a permis de venir en aide aux auteurs les plus touchés par la crise. Ils ont eu une aide personnalisée.
Alors après, c'est les maisons d'édition. Les maisons d'édition, ça fait très mal pour
les auteurs les plus en difficulté ont pu bénéficier du... Le fonds de solidarité a été adapté pour les auteurs.
Dans les librairies. On parlait du e-commerce il y a quelques instants. Il y a plein de manières de retourner acheter ses livres dans les librairies.
Allez, on s'arrête là. La saison, en tout cas, des best-sellers, elle est ouverte. On l'a compris. On en reparle demain avec Joël Dicker à 19h20. Merci beaucoup, les grandes voix du lundi. C'était un plaisir de vous avoir à mes côtés. Et attendez, à noter, pardonnez-moi, lundi prochain, là, dans ce studio, le grand retour des grandes voix historiques de la station. Charles Villeneuve, Catherine Ney, Gérard Carrérou, Michel Cotta, on sera heureux de les retrouver. Oui, ils reviennent. Promis.
À suivre, Nathalie Lé.